Ambiance Africa.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Et direction le téléphone d'Africa Radio à présent pour accueillir Eva Barra. Elle est ethno-coach en fusion culturelle. C'est une discipline axée sur le développement personnel et l'estime de soi dans un contexte de biculturalité. Et depuis quelques semaines, nous avons entamé une série sur l'éducation de nos enfants. Et aujourd'hui, nous allons aborder comment faire de nos enfants des hommes et des femmes équilibrés quand on les élève seuls. Tout un programme. Bonjour Eva Barra. Merci de nous rejoindre.
Bonjour Aïssa. Ça, merci. Merci à toi pour l'accueil. Merci.
Alors, un sujet important.
Totalement, totalement. La monoparentalité, c'est presque devenu une norme en Occident, et à la fois, eh bien, ça a des répercussions sur la constitution des familles et du coup sur l'éducation des enfants. Ouais. On l'a abordé il y a quelques semaines de cela, on a parlé un petit peu de la répartition de l'autorité. Eh bien, en cas de monoparentalité, c'est tout qui est à remettre en cause. Donc ça me semble important, justement, comme tu dis, de revenir sur ce sujet et d'être un peu plus dans le détail de comment est-ce qu'on en fait des hommes et des femmes quand on est tout seul. Parce que, évidemment, le fait qu'on ait un garçon, eh ben, on va se dire que il a une figure identificatoire masculine, donc le papa. Qu'on ait une fille, sa figure identificatoire, eh bien, c'est la maman. Enfin, en parlant de figure identificatoire, c'est la personne avec qui, dans sa construction, eh bien, il se dit « c'est mon modèle, il ou elle m'inspire
ouais. ».
Eh bien, en cas de monoparentalité, il y a une de ces figures-là qui est absente. Donc, quand c'est un garçon et que la figure identificatoire absente, c'est le père, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour aider cet enfant à se construire dans sa masculinité
ouais.
si son père est absent ? Donc, pour la monoparentalité, avant d'en arriver là, il me semble important de revenir un peu sur comment ça se passe, comment ça se passait, parce que même sur le continent, en Afrique, je suis sûre que ceux qui nous écoutent seront d'accord là-dessus, c'est de moins en moins le cas, mais on avait cette présence sur plusieurs générations sous le même toit.
Ouais.
On avait les parents qui avaient leurs enfants. Une des règles principales, c'était que l'aîné restait dans un premier temps. En tout cas, l'aîné restait sûr. Ensuite, eh bien, les autres fils restaient dans la maison de leur père, épousaient des jeunes femmes et du coup s'installaient chez leur père.
Ouais.
Donc, ils agrandissaient la cour, ils agrandissaient la maison pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Dans ce cas de figure-là, eh bien, il y avait cette possibilité d'avoir des figures relais.
Ouais, le tonton, le papy.
Totalement, exactement. Et c'est là-dessus où on dit souvent qu'en Afrique, eh ben, c'est l'enfant de tout le monde.
Mmh.
Comme je dis encore une fois, je remets dans le contexte, c'est de moins en moins d'actualité dans les grandes villes surtout. Mais ça avait en tout cas le mérite de permettre à l'enfant d'avoir plusieurs figures, plusieurs modèles autour de soi. Et des personnes que j'accompagne aujourd'hui qui sont adultes sont capables de me dire que, en fait, oui, mon père, il n'était pas très présent parce qu'il voyageait, parce qu'il travaillait. Par contre, dans mes représentations, eh bien, j'ai mon oncle qui était toujours là.
Ouais.
Donc, il avait une panel d'adultes autour de lui dont il pouvait s'inspirer pour se construire. J'aimerais bien être autonome comme un tel, j'aimerais bien être bien habillé comme un tel, etc., etc. Donc, en fait, il a cette possibilité de créer à travers un patchwork de personnes autour de lui sa figure identificatoire propre, ce qui nous est difficile ici en Occident.
Absolument.
Parce qu'on est dans un premier temps dans une société qui est beaucoup plus individualiste, où finalement eh bien, on tient à notre autonomie et notre indépendance en termes d'habitation. Donc en fait, on vit chacun chez soi. Donc, en cas de monoparentalité, et là, on est vraiment sur du mono, on est vraiment sur de la solitude, on est vraiment sur une maman qui élève seule ses enfants, on est vraiment sur un papa qui élève seul ses enfants. Je tiens à le dire parce qu'on parle beaucoup des femmes en situation de monoparentalité.
Il y a beaucoup d'hommes aussi qui élèvent leurs enfants seuls.
Exactement, il y a aussi beaucoup de papas solo un sujet sur lequel on fait moins de bruit, mais il y en a aussi beaucoup, que ce soit parce que la mère est décédée en donnant vie à cet enfant, ou que ce soit suite à une séparation. De plus en plus, en tout cas, la justice écoute la demande de garde des pères, et il y a de plus en plus d'accords qui sont donnés justement à ces pères-là pour qu'ils puissent élever leur enfant seul de leur côté aussi. Toujours y est-il que on revient encore une fois sur le sexe. C'est vraiment le sexe de l'enfant qui fait que si c'est une petite fille, son modèle identificatoire direct, ça va être sa maman. Donc si cette petite fille vit principalement avec son père, eh bien, il lui manque dans la vie quotidienne son modèle identificatoire. Mmh. Et c'est là où ça devient important que le parent, justement, soit conscient de ça. C'est qu'on a beau, on l'entend beaucoup, je suis sûre que même toi, tu l'entends, je joue le papa et la maman.
Ouais.
Eh bien, je suis désolée, messieurs, je suis désolée, madame, mais ce n'est pas possible.
C'est vrai.
Ce n'est pas possible. On peut le dire avec la bouche, comme on dit en Afrique, on peut le dire avec la bouche, mais dans les faits, ce n'est pas possible. C'est important que ce soit deux personnes distinctes. À la fois, ce n'est pas primordial que ce soit les parents. C'est pas primordial que ce soit les parents biologiques qui jouent ce rôle-là. Et c'est là où l'institution, l'école, toutes ces infrastructures peuvent aider les parents à permettre à leur enfant de se construire de manière équilibrée. On a eu des profs qu'on aimait bien, des maîtresses auxquelles on s'est identifié.
Ouais.
Certains enfants disent oui, bah telle matière travaille mieux parce que la maîtresse, voilà, j'aime trop comment elle est. Du coup, je vais être maîtresse comme un tel. Donc, de la même façon, l'école, les structures peuvent aider les parents justement à pallier sur la monoparentalité. Maintenant, toujours en Occident, c'est valable en Europe, c'est valable au Canada également. Le niveau scolaire est principalement féminin. Donc, il y a principalement des maîtresses. Donc, encore un milieu très avec beaucoup de femmes. Donc, ouais. Les enfants pour lesquels c'est le moins évident de trouver des modèles reliés, ça va être les garçons. Ça va être les garçons. Et bon, on en parlera sur un autre sujet, parce qu'on parle des garçons qui se féminisent. Mais tout ça a des répercussions, en fait.
Mmh.
Au quotidien, ils ont 80% de femmes. Dans leur quotidien, de la petite enfance jusqu'à l'université. Quasiment. Donc, on reviendra sur ce sujet à un autre moment, mais il est important de dire qu'en fait, ces garçons-là, c'est important de leur créer des ailleurs si leur père n'est pas présent au quotidien. Bien sûr que ça n'enlève absolument pas l'autorité ni du parent absent, que ce soit le père ou la mère. Par contre, le fait que l'enfant voit ce parent-là dans le mode de garde classique un week-end sur deux, ce n'est pas suffisant. Donc, ça devient de la responsabilité du parent qui en a la garde, et bien de pallier à cette absence-là, non pas, quand ils sont plus grands, justement, en créant le lien, le pont avec ce parent à absent à travers les écrans. Aujourd'hui, il y a les téléphones, il y a les appels visio, il y a des outils qui permettent que le parent, même en étant absent, peut être présent dans la vie de l'enfant. À la fois, ça peut être en ayant des frères, si c'est le papa qui est absent, en ayant des tontons et des tatas de la maman qui sont présents pour l'enfant.
Ouais.
Ça peut être en ayant justement des figures identificatoires du sexe opposé dans son éducation scolaire. Mais comme justement, les femmes sont vraiment, vraiment, vraiment majoritaires.
Ça peut être les grands-parents
aussi. Dans les écoles. Ça peut être les grands-parents également, totalement. Ça peut être les amis. Et il y a la notion de parrain, marraine,
ouais.
Qui peut aussi rentrer en ligne de compte quand on a pris ce prisme-là, où justement qu'on l'ait baptisé ou non, c'est-à-dire qu'il y a aussi les baptêmes civils pour les personnes qui le souhaitent, pour justement officialiser cette structure-là, eh bien, il y a également la possibilité de nommer un parrain et une marraine qui va venir également pallier, renforcer la relation justement identificatoire. Et ensuite, pour les garçons, donc comme justement, c'est la figure, c'est ceux qui ont le plus de difficultés, soyons clairs, à trouver des figures identificatoires, les loisirs sont primordiaux.
Ouais, c'est vrai.
C'est là où ils vont commencer à trouver des figures identificatoires, des profils qui vont leur plaire.
Ouais, un entraîneur.
Totalement, c'est souvent ça, ils sont inspirés par le coach, ils sont inspirés par le prof de piano. Quelle que soit l'activité, eh ben, il s'agit d'aller trouver au niveau des loisirs eh bien, des figures masculines. Et là, je sais que ce n'est pas évident en ce moment avec ce qu'on vit, parce qu'il n'y a pas eu de licence quasiment dans les sports co cette année. Donc, pour l'instant, dans l'immédiat, c'est vraiment de reconstruire son réseau autour de soi au niveau de la famille, au niveau de quand c'est des femmes, au niveau de ses frères, au niveau de ses amis. Quand c'est des hommes, au niveau de ses sœurs, au niveau de ses amies féminines également. C'est vraiment de créer un environnement autour de l'enfant pour qu'il puisse s'identifier aussi bien au masculin qu'au féminin. Pour qu'il puisse se construire de manière stable émotionnellement et qu'il puisse se dire, en fait, oui, quand je serai grand, je me dirigerai vers cette direction. Il aura le droit de changer tout au long de sa vie. Mais le fait d'avoir des modèles autour de soi, eh bien, ça ouvre une permission. Ensuite, ce qui me tient à cœur de préciser sur le parent, parce que bien sûr, on a parlé des enfants, bien sûr qu'on souhaite en faire des hommes et des femmes autonomes, on l'a dit, hein, aussi bien aussi bien socialement parlant que émotionnellement parlant.
Ouais.
Pour en arriver là, il est nécessaire que, bon, comme on dit, la fruit tombe pas loin de l'arbre, donc on commence par soi.
Ouais.
C'est vraiment le conseil que je donnerais aux parents qui sont en monoparentalité. C'est souvent le cas où on se replie autour de son enfant, où on en fait son cheval de bataille. Mon fils, ma bataille, il a cette phrase aussi, il faut la bannir. Il y a des phrases comme ça, là, c'est, non, on peut plus, c'est pas possible. Parce que c'est lourd, en fait, à porter pour l'enfant de se dire que, bah, sa mère ou son père a tout arrêté pour lui. Donc, ce que je conseille à ces parents-là aussi, c'est d'oser continuer à grandir. En
même,
fait, c'est
même,
d'oser
même en fait, le fait de dire à son enfant, ouais, t'es tout pour moi, t'es la chose la plus importante,
ouais.
c'est nocif.
Non. C'est pas nocif, mais c'est lourd de sens. C'est que finalement, cet enfant, c'est comme si on lui disait qu'il avait la responsabilité de notre bonheur ou de notre malheur. C'est nous qu'on va porter quand même.
Ouais, c'est vrai.
Mais lui dire qu'on l'aime, c'est sans attente. Là où il faut faire attention, c'est dès lors que finalement, il y a une dépendance. Donc du coup, on agit pour que l'enfant soit autant que possible autonome. Veillons à ce qu'on le laisse libre, en fait. À ce que l'enfant, si demain, il se dit « je vais partir de la maison », il ne se dise pas « mais ma mère, elle va se pendre ».
On ne les fait pas pour nous, quoi, en fait. On les fait pour, on les fait pour
oui,
eux.
Oui, oui.
C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier.
Oui. C'est ce que j'ai dit beaucoup en accompagnement, parce que j'accompagne beaucoup autour de la parentalité, mais pas que. Et quand j'explique réellement, c'est que oui, ils sont arrivés sur Terre à travers nous, mais ils ne nous appartiennent pas.
Et c'est ça.
Donc on est leurs éducateurs, on est leurs profs, on est là pour les aider à devenir autonomes pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Mmh. Mais le propre de l'éducateur, c'est d'œuvrer à sa propre inutilité. Donc on les rend autonomes pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Et ce qui est important pour que ça soit possible et que ce soit bien vécu par le parent, c'est que tout en remplissant cette mission de rendre son enfant autonome, eh bien en parallèle, ce parent se rend lui-même autonome, ce parent s'occupe également de lui, continue à grandir, continue à rêver et à se réaliser. Parce que quand on dit aux enfants « tu peux faire tout ce que tu veux, rêve grand », ok. Mais en fait, toi-même, là, ton rêve, il s'est arrêté quand, maman, papa t'as arrêté de rêver quand, en fait?
C'est vrai, j'avoue.
Parce que du coup, ils nous regardent. On dit des choses, mais les enfants sont plus attentifs et plus absorbateurs. Ils absorbent davantage ce qu'on fait, ce qu'on incarne, que ce qu'on leur dit.
Absolument.
Donc à ce moment-là, eh bien, le fait de voir des parents qui vivent leurs rêves, qui vivent de leurs rêves, en tout cas qui se mettent en mouvement par passion, eh bien, ça va les inspirer, même si ce parent est moins présent. Mais ils ont en tête, justement, un parent qui a vécu son rêve, qui a vécu ses projets, qui s'est dépassé, qui s'est surpassé. Certes, même s'il a passé moins de temps avec lui, eh bien, le temps qu'il en a passé, il a ce souvenir-là du rêve. Il a ce souvenir-là de la croissance du parent, en plus de sa présence. Donc, en fait, ce que je conseille à tous parents en situation, à tous les parents de manière générale, mais en situation de monoparentalité, c'est encore plus important, c'est vraiment d'avoir un ailleurs. C'est vraiment d'avoir un ailleurs, c'est vraiment d'avoir une vie à soi en parallèle de la parentalité.
En tout cas,
c'est pas une fin en soi, en fait. Être maman, c'est pas une fin en soi. Être papa, c'est pas une fin en soi.
Et après, le jour où ils partent, là, après, ça y est, tout s'effondre.
Non, on est en dépression. Exactement. On est en dépression. On déteste la belle-fille. Tout ça, là. C'est parce qu'on a arrêté de vivre. Donc, please, soyons parents. Mais pour être des parents épanouis, soyons des hommes et des femmes épanouis. On fera d'eux des hommes et des femmes épanouis et équilibrés, qui seront aussi bien autonomes émotionnellement que au niveau de leurs rêves, de leurs aspirations, de leurs projets socio-professionnels.
Super conclusion et sujet très intéressant, Eva Barra. Je rappelle que tu es ethno-coach en fusion culturelle. C'est une discipline qui est axée sur le développement personnel et l'estime de soi dans un contexte de biculturalité. Tu nous en dis plus et tu nous dis où on te retrouve sur les réseaux?
Oui, bah alors du coup, comme je disais, là, concernant la parentalité, par exemple, j'accompagne des parents, souvent des mamans. Donc j'ai une thématique qui s'appelle « Maman, mais pas que », c'est comment justement continuer à être mère en n'ayant une vie propre à soi, en ayant des activités, en ayant des aspirations, en montant son entreprise par exemple. Et à la fois, bah, quand on est issu de la double culture, là sur Africa Radio, on a parlé de quand on est afro-descendant vivant en Occident par exemple, eh bien on a notre partie africaine qui nous dit que bah, être femme, c'est être mère en fait, c'est subvenir aux besoins de ses enfants. On a notre partie occidentale qui nous dit qu'en fait bah, être femme, c'est être l'égale de l'homme, c'est avoir des aspirations, des projets, des rêves. Aïe, Eva, c'est comment en fait
comment on mélange tout ça?
Voilà, c'est ça en fait. Comment on fait je me sens écartelée, ça se passe comment? Et ben c'est là que j'interviens pour pacifier tout ça. C'est vraiment d'aller écouter, ok, telle culture a dit ça, telle culture a dit ça. Toi, ici et maintenant, qu'est-ce qui compte pour toi?
C'est ça.
Le coaching, c'est vraiment d'aller tailler sa propre vie, d'aller tailler, se tailler une vie sur mesure pour prendre sa place à l'intérieur de soi, chez soi, puis dans le monde. Dans ce sens-là et non l'inverse.
Voilà. N'hésitez pas à retrouver Eva Barra sur ses différents réseaux, sur son site internet également pour en savoir un petit peu plus sur l'ethnocoaching, www.evabarracoach.com et sur les différents réseaux. Eva Barra, tout simplement, vous la trouverez. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Comme d'habitude, Eva, on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Et merci en tout cas de nous apporter tes éclairages sur l'antenne d'Africa Radio.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Aïssa.
Ambiance Africa.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.